l'impression que c'est la fin de la journée, donc on est un peu déjà fatigué. Ce que je vous propose, c'est de repartir de ce que vous avez écrit dans les questions là, qui m'ont été transmises, et puis trois points que là, en vous lisant, que j'ai élaboré là à l'instant, donc c'est vraiment comme ça, hein, c'est spontané. Et après, un échange général, ça vous va? C'est bon? On peut y aller? Vous avez encore du courage? Et n'oubliez pas, oui, il faut bien. On est là, de toute façon, comment faire? Alors, merci beaucoup pour les questions, parce qu'elles sont vraiment très intéressantes. J'ai beaucoup aimé aussi les témoignages de tout à l'heure, donc je vais repartir des témoignages de tout à l'heure, puis des questions qui sont arrivées, pour dire trois choses sur la liturgie, la prédication et la synodalité, dans cet ordre-là, parce que c'est celui qui m'est apparu le plus pertinent. Au fond, il y a eu beaucoup de questions que j'ai perçues, que j'ai lues, autour de la liturgie. Alors, c'est quoi la liturgie? Et je pense que c'est une très bonne question, alors que j'ai quand même essayé d'y répondre, mais c'est une bonne question parce que ça dit beaucoup des exigences pour nous aujourd'hui et puis de la difficulté. Donc, la liturgie, l'action du peuple, hein, pour moi, elle est matricielle, ça veut dire que tout n'est pas liturgie. Voilà, elle a des limites. Et elle est matricielle, y compris dans son étrangeté. C'est-à-dire, elle nous fait sortir d'un quotidien, parce qu'on se place différemment, parce qu'on s'habille différemment parfois, parce qu'on est mis différemment dans une pièce. Je pense que c'est important, d'ailleurs, tout à l'heure, moi j'ai beaucoup apprécié qu'on traverse la rue, qu'on aille voir le Saint Crucifié et qu'on ait l'office là-bas. Ça aurait été très différent si on avait eu l'office. On aurait pu avoir l'office ici, hein, on aurait bien prié. Mais donc, c'était complètement différent comme manière d'être, comme espace. Et je pense que ça, c'est très important, l'étrangeté de ce point de vue-là, qui est difficile, bien sûr, parce que, surtout aujourd'hui, où ça parle moins, d'une certaine façon, mais c'est aussi ça qui l'a fait fonctionner. Donc, moi, je pense qu'elle n'est que matricielle. Alors, c'est quoi la matrice? La matrice, c'est ce qui donne forme et qui expulse. Autrement dit, quel est le moment le plus important de la liturgie eucharistique, par exemple? L'envoi, évidemment. Souvent, quand on pose la question, les gens disent « Ah, c'est la consécration ». D'ailleurs, dans le monde catholique, ça se voit bien, parce que à ce moment-là, tout le monde change d'attitude, certains se mettent à genoux, etc. Bon, c'est amusant. Et en fait, par certains côtés, c'est bien sûr l'envoi qui, d'une certaine façon, est le plus important, parce que ce qu'on a célébré va se vivre, va se vérifier, va se déployer dans le Christ qui nous attend dehors, parce qu'il nous attend évidemment tout autant dehors que dedans. Donc, je pense que ça, c'est matriciel, dit bien au fond les limites de la liturgie, et voilà. Deuxièmement, elle est un processus d'initiation. Donc, ça, c'est pour moi très important, l'aspect processuel. Donc, de ce point de vue-là, elle ne se présente pas comme un tout. Elle se présente toujours comme un chemin, comme une action, évidemment, comme une manière de faire. Et donc, elle est un processus d'initiation. Elle est d'ailleurs, au fond, le rituel d'initiation chrétienne des adultes, a intégré complètement l'aspect liturgique dans le processus d'initiation chrétienne. Ça, vous le savez bien. Et donc, elle demande, puisque c'est un processus d'initiation, elle demande de la part de ceux qui en sont responsables, ceux et celles, bien sûr, une implication personnelle. Par exemple, c'est tout à fait frappant quand on réfléchit une seconde, un prêtre ou un évêque qui préside l'Eucharistie doit toujours communier lui-même. Vous voyez, on pourrait dire, non, il le fait pour les autres. Non, parce qu'en fait, la manière même de célébrer, la manière de présider l'Eucharistie implique nécessairement une forme de communion. Et donc c'est une exigence, du coup, pour l'Eucharistie, mais c'est vrai, bien sûr, bien plus largement. Elle demande toujours une implication personnelle. Donc elle met en jeu, inévitablement, notre propre individualité, notre propre engagement. Deuxièmement, elle demande une catéchèse, une mystagogie. Donc de ce point de vue-là, la liturgie est relativement exigeante, puisqu'elle passe forcément par, disons, une explication, une explicitation qui peut se faire souvent en dehors de la liturgie, avant, et parfois encore mieux après. C'est ce qu'on voit chez les pères de l'Église. Les catéchèses mystagogiques, elles ont plutôt lieu après. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On voit très bien ça pour la Semaine Sainte. La Semaine Sainte est un lieu idéal pour faire une catéchèse mystagogique. Troisièmement, la liturgie, elle est le lieu où la Bible devient parole de Dieu. Mais c'est la liturgie, c'est bien toute la liturgie. Le problème, c'est que nous sommes catholiques et qu'on a tendance à penser liturgie égale Eucharistie. Or, en fait, non, c'est l'Eucharistie et les autres sacrements, bien sûr, donc aussi les autres sacrements, il y en a d'autres. C'est la liturgie des heures, d'abord et avant tout, pourrait-on penser, enfin, en temps que nous passons. Nous parlons des religieux, des religieuses, les prêtres, les diacres, les prêtres, les évêques, ils sont astreints à la récitation de l'office, et ça prend beaucoup de temps, en fait, hein, quand on le mesure, plus que la liturgie, même quand elle est quotidienne, plus que l'Eucharistie, même quand elle est quotidienne. Mais c'est aussi les pèlerinages, les dévotions populaires, l'accompagnement des familles. En fait, la liturgie est beaucoup plus large. Or, évidemment, si on a une conception beaucoup plus large de la vie liturgique, à ce moment-là, on peut tout à fait, entrer dès maintenant dans des innovations qui apparaissent comme extraordinaires, alors qu'elles ne le sont pas du tout, comme par exemple faire prêcher des femmes dans une liturgie. C'est tout à fait possible. Rien n'aurait empêché tout à l'heure, on n'avait pas le temps, puis c'était pas le lieu, mais au moment où on était dans l'église devant le Saint-Crucifix, dans cet office des lectures, dans cet office de milieu du jour, d'avoir une prédication faite par un ou une baptisée, ici, bien sûr, peu importe son sexe et son ministère. Donc ça, c'est très important, parce que cette conception plus large de la liturgie ouvre, évidemment, à manifester l'égalité baptismale, parce que là, elle peut se manifester très largement, je pense en particulier à la liturgie des heures. Dernier élément, ici, un paramètre œcuménique majeur, parce que nos frères et sœurs d'autres confessions, je pense surtout aux orthodoxes et aux anglicans, ont vraiment conservé l'habitude paroissiale de célébrer la liturgie des œuvres, que nous, nous avons globalement perdu, ce qui est, à mon avis, une perte énorme. Il y aurait sans doute, à mon avis, beaucoup de choses à faire pour faire en sorte que l'ensemble du peuple chrétien redécouvre le trésor extraordinaire qu'est la liturgie des œuvres, y compris dans son aspect super répétitif. Moi, j'étais séminariste puis prêtre, ça vient bientôt 40 ans, tous les vendredis, j'ai le psaume 50. Tous les vendredis. Donc ça, c'est la première chose, la liturgie. Deuxième chose, la prédication. Donc évidemment, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit là, et je rebondis, la prédication est un geste et non pas un discours. Voilà. Ça, pour moi, c'était lumineux quand j'ai écouté nos trois amis là tout à l'heure. C'est vraiment clair pour moi, je le dis vraiment très clairement, la prédication est un geste et non pas un discours. Pourquoi ? Parce que la parole est une personne et pas un texte. Voilà. Donc du coup, comme c'est une personne et pas un texte, le fait de prêcher, ce n'est pas, disons, débiter un discours officiel, mais c'est adopter un geste. Alors du coup, parce que, ça a été très très bien dit aussi, parce que la parole, elle travaille le cœur et l'intelligence, jamais l'un sans l'autre. Moi, j'ai beaucoup apprécié qu'on nous ait dit ça, le cœur et l'intelligence pour devenir geste. Ça, je pense que c'est vraiment très bien percevoir, au fond, l'originalité de la Bible chrétienne. Parce que ici, ça va travailler les deux, le cœur et l'intelligence, et pas l'un sans l'autre. Il y a toujours le risque, d'ailleurs, d'oublier un des deux paramètres. Y compris aujourd'hui, et pas seulement, enfin, y compris dans le monde catholique. C'est un geste, parce que c'est un geste qui vient rejoindre le monde du destinataire et le fait entrer dans le monde biblique. Et donc, c'est pour ça que le geste est très important. Parce que ce n'est pas un geste où on va par en dessus faire, dégouliner sur des gens qui ne savent rien ce que nous savons, mais c'est aller rejoindre ceux et celles à qui on s'adresse pour les faire entrer, comme nous pouvons, dans le monde biblique, dans lequel, par ce geste-là, nous-mêmes nous entrons davantage. Autrement dit, au moment même où nous déployons ce geste, si c'est vraiment un geste de prédication de la parole de Dieu, alors se jouera aussi pour nous notre propre évangélisation. Il y a une des questions qui est posée, mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même réévangéliser les chrétiens? Quand même, il serait temps de s'y mettre. Ben oui, ça fait juste 2000 ans qu'on essaie. Mais bien sûr, parce que c'est très bien vu. Parce qu'en fait, nous sommes les premiers destinataires de la prédication. Souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on souvent dit, au fond, le prédicateur ou la prédicatrice, à qui prêche-t-il ? Parfois à lui-même. Ou à elle-même. Avec parfois pas toujours du succès. Et du coup, comme ce geste, c'est un geste, il implique une déontologie et une régulation. Il y a une des questions qui a été posée aussi, mais est-ce que ce qui est dit dans Dei Verbum 25, les avertissements, sont toujours d'actualité ? À mon avis, plus que jamais. Il y a vraiment une déontologie de la prédication. Il y a une manière, et on l'a vu, une manière tout à fait problématique, scandaleuse, de manipuler l'écriture. C'est très facile. C'est très facile. Je prends deux exemples. Vous ouvrez Paul, 1 Corinthiens, chapitre 14, et vous lisez « Tacheat mulier in ecclesia », c'est dans grec, « que la femme se taise dans l'assemblée ». voyez que ce verset-là peut, jusqu'à la fin des siècles, hein, justifier une pratique, disons, sexiste. Vous ouvrez l'évangile de Matthieu, chapitre 27, la passion, la passion selon saint Matthieu, et vous avez la foule qui répond cette formule, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Cette formule-là peut justifier jusqu'à la fin des siècles un geste anti-juif. Voilà, donc pour dire que non, la parole est dangereuse. Elle est dangereuse. Donc du coup, ça demande en effet une véritable déontologie, une régulation. En effet, et du coup, ça demande une formation initiale et permanente. Ah oui, ça moi je pense que c'est... On ne peut pas demander comme ça à quelqu'un de prêcher véritablement. Ça demande inévitablement une formation, ne serait-ce que pour faire percevoir la portée du geste à celui ou à celle qui en est responsable. Voilà. Le pouvoir que cela constitue, c'est un pouvoir qui peut être extrêmement problématique dans sa mise en œuvre. Nous le savons, nous en avons des exemples. Donc voilà pourquoi, troisième élément que je veux dire, c'est la synodalité. Le moment où nous sommes, qui est vraiment un moment très intéressant pour moi, déterminant, qui n'est pas neuf, parce que la synodalité, on en parle depuis des siècles, mais qui s'avère comme particulièrement pertinent pour notre époque. À la suite d'ailleurs de ce que François met en œuvre, mais à la suite de ses prédécesseurs. Hein, c'est très évident quand on fait l'histoire de la synodalité, il faut bien remonter bien au-delà de François, il faut aller jusqu'à Paul VI et le geste qu'il a eu en 65. Donc, quelques trucs. Mais moi, je balbutie beaucoup plus parce que au fond, on est dans quelque chose d'assez nouveau. Alors, la préparation avec d'autres, ça, sans doute, vous l'avez déjà fait. Moi, je l'avais fait quand j'étais séminariste, des équipes liturgiques dans les paroisses, etc. Donc, on peut toujours faire ça, et je pense que ça n'a pas perdu sa pertinence. Je pense que on insiste beaucoup plus sur la place pour celles et ceux qui n'ont pas la parole. Quand j'étais à Saint-Bonaventure, à Lyon, quand j'étais directeur de Saint-Bonaventure, on avait tous les vendredis saints, tous les vendredis de Carême, pardon, un chemin de croix. Et une fois, c'est une communauté qui s'appelle le Sapel, communauté de gens du Carmont, qui est venue animer le chemin de croix à Saint-Bonaventure. Ben, je peux vous dire que personne n'a pu oublier ce chemin de croix. Parce que les personnes qui étaient venues là l'ont animé. Alors, ils ont dit des choses, des paroles, en effet, on a suivi les stations, bon, on a fait le chemin de croix, quoi. Mais ils l'ont animé et l'ont habité de leur propre existence. Donc on a vécu le chemin de croix, au fond, dont ces personnes étaient elles-mêmes témoins jusque dans leur propre chair. C'était tout à fait impressionnant. Donc du coup, je pense que dans la prédication, dans l'aspect synodal, pardon, c'est aussi faire en sorte que ceux qui n'ont pas la parole, les pauvres, qu'on les appelle un peu trop rapidement sans doute, soient vraiment véritablement intégrés. Et ça peut paraître absolument contradictoire avec ce que je vais dire juste après. C'est-à-dire que pour moi, l'aspect synodal, c'est aussi la prise au sérieux de l'exégèse, des méthodes exégétiques, il y en a plusieurs, hein. Et puis des sciences humaines. Donc honorer même le caractère textuel de la Bible et son inscription dans une histoire, une culture, etc. etc. Et le fait que ça ne nous appartienne pas. La Bible n'appartient pas à l'Église, ni aux Églises. La Bible, c'est un bien commun de l'humanité. Et d'autres que les chrétiens y ont accès et en font ce qu'ils veulent, des œuvres d'art, des pièces de théâtre ou autre chose. Et ça, c'est aussi à prendre au sérieux. La parole, de ce point de vue-là, elle est livrée. Elle est livrée jusque entre les mains de ceux pour qui elle n'est qu'un objet. À l'image de ce que le Christ lui-même a vécu, évidemment. Quatrièmement, une exigence œcuménique. Moi, je pense que l'étape synodale, c'est une étape où on prend conscience que l'œcuménisme est une chance vraiment considérable, inouïe, qu'on ne peut pas laisser passer pour notre propre Église catholique. On ne s'en sortira pas tout seul. Autrement dit, l'œcuménisme, ce n'est pas des églises qui vont très bien tout séparément et puis qui acceptent de faire un pas de plus les unes vers les autres. Mais c'est des églises qui vont assez mal les unes et les autres parce qu'elles sont sans doute séparées et qui peuvent faire un pas pour aller un peu mieux ensemble. Et puis je terminerai par un débat général, parce que là j'ai fini ce que j'ai à vous dire, mais un exemple de processus de relecture. Donc moi, ce que j'ai vécu une seule fois dans ma vie, donc c'est quand même pas à Bézèf, hein, mais c'était pour le carême. Donc toujours à Saint-Bonaventure, à Lyon, qui est une église, pour ceux qui connaissent Lyon, au cœur de la ville, c'est métro cordelier entre Thérault et Bellecour. Et c'est une église qui n'est pas une paroisse, c'est un sanctuaire urbain. Donc il y a beaucoup de confessions, de formations, de musique, etc. Et pour le carême, ce qu'on avait proposé avec mes confrères et moi, c'est que on prêchait un seul par dimanche, on distribuait aux gens après la messe l'essentiel de la prédication. Alors certains de mes confrères vraiment lisaient leur texte, ce n'est pas le cas de d'autres, enfin en gros le contenu était distribué à la fin. Et puis on donnait rendez-vous aux gens le vendredi qui suivait, parce que là on faisait toujours une opération bol de l'eau. Les gens étaient moins nombreux, évidemment, revenaient pour le bol de riz. Et là, il y avait, animé par un autre prêtre que celui qui avait prêché, un échange sur la prédication. Et celui qui avait prêché assistait à l'échange et devait rester silencieux. C'était horrible. C'était horrible. Une véritable torture. Sauf que, parce que les gens disaient, oui, mais on a trouvé que, puis alors, il a fait ça. Et à la fin, quand même, le prédicateur, qui était donc muselé pendant trois bons quarts d'heure, avait quand même la possibilité de dire ce que cette relecture lui faisait. Et au fond, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que on a beaucoup insisté pastoralement sur préparer les lectures avant de venir à la messe. Bon, alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait plein de gens qui le fassent. Enfin, quelques-uns quand même, qui préparent les lectures avant de venir à la messe. Bon, c'est super. Mais on n'a peut-être pas assez dit, mais vérifiez comment cette lecture, ces lectures, cette parole qui vous a été partagée jusqu'à devenir geste eucharistique, a comme conséquence dans votre existence dans la semaine. C'est-à-dire qu'on a trop fait du dimanche le dernier jour et pas assez le premier jour. Parce que le dimanche, c'est le premier jour. Et donc, en fait, on pourrait... Enfin, c'est ça qu'on essaie de faire, en fait. De faire en sorte qu'on puisse partager sur l'effet d'une parole dans notre existence. Et c'était assez intéressant. Mes confrères, et moi le premier, moi, j'ai quand même entendu des choses sur mes propres prédications qui ne m'ont pas fait toujours que très plaisir. Je dois le dire, mais c'est bon pour l'humilité. Mais c'était quand même très intéressant de faire cet exercice de relecture synodale. Je me suis dit, c'est vraiment dommage que j'ai fait ça il y a quelques années, j'ai pas eu ça au début quand j'ai commencé à prêcher, quand j'étais jeune prêtre. Parce que ça m'aurait sans doute beaucoup aidé, pas seulement qu'on me dise que je parle trop vite, ça on me le dit toujours, c'est pas. Mais qu'en plus, je perçois au fond l'effet et puis les limites d'une prédication. Voilà ce que je voulais vous dire. À partir des questions qui sont les vôtres, mais j'ai pas répondu à toutes les questions, donc je pense que maintenant ce qui serait bien, c'est peut-être un débat général. Il y a un deuxième micro, je crois,
on peut circuler.
Non, celui-là peut circuler.
À qui, oui, toi avec, s'il souhaite dire un mot.
J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit que la prédication devait s'adresser à l'intelligence et au cœur. Dans la conférence de presse dans l'avion du retour de Lisbonne, François a parlé de la prédication parce qu'on lui a dit, mais vous n'avez pas dit les textes que vous avez venus avant.
C'est vrai, c'est vrai.
Il a dit, mais la prédication, ça peut être une torture. Mais il faut s'adapter. Il faut écouter ceux qui sont en face de nous. Et il a eu dans les adjectifs qu'il a soulignés par rapport à la valeur d'une prédication, ce mot, la prédication doit être affectueuse. Ça m'a frappé, je suis revenu en arrière pour écouter si j'avais bien entendu. C'était une traduction en français, bien sûr. Oui, il a vraiment parlé d'une prédication qui doit être affectueuse, qui doit rejoindre le cœur de ceux qui nous écoutent. Beaucoup, beaucoup aimé ça. En dehors de la liturgie, en tout cas, je crois. Mais pourquoi vous l'avez précisé ?
Oui, merci. Alors, c'est une très bonne question. Il y a deux choses. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est la pluralité des mots par lesquels on désigne les choses. Donc, effectivement, on dit la Bible,
qui en fait est un mot pluriel en grec, hein, tabulia, c'est une bibliothèque en fait, de même qu'on dit l'écriture ou les écritures. Dans tous les cas, on parle d'un objet, ou disons, de quelque chose qui est en train de... qui a une forme matérielle. Parce que la transmission des écritures a nécessité, en effet, des moyens matériels considérables. Et c'était très intéressant tout à l'heure quand on a lu Luc chapitre 4. Là, on parle d'un rouleau, parce qu'à l'époque, c'était vraiment des rouleaux. Quand on passe au codex, c'est très différent le rapport aux écritures, parce que le codex fait qu'on peut se balader dans le texte biblique plus facilement que si c'est un rouleau qu'on déroule et qu'on... Voilà. Donc ça a comme conséquence qu'on a moins besoin de savoir par cœur. Si vous avez travaillé avec des juifs, par exemple, surtout des rabbins, ce qui est absolument sidérant, c'est leur capacité à savoir tout par cœur. Sans arrêt, ils vont... non seulement la Torah, donc bon, les cinq premiers de la Bible, mais aussi le Talmud. Et sans arrêt, oui, mais parce que si Rabbi Atel a dit cela, etc. Bon. Donc ils ont tout par cœur. À partir du moment où on a un codex, le rapport au texte devient tout à fait différent. Pour moi, ce qui est important, c'est de dire que ça devient parole, c'est-à-dire ça devient transmission, ça devient relation dans l'acte liturgique. Avant, c'est un texte, parmi tant d'autres, qui d'ailleurs peut rester comme beaucoup de nos livres dans les bibliothèques sont des livres morts. Ils ne deviennent vivants qu'au moment où on les prend et on les ouvre. Voilà pourquoi, moi je pense que c'est important, disons, que de manifester la différence entre Bible et parole de Dieu. Alors, ce n'est pas le cas dans toutes les confessions chrétiennes. Je travaille avec les conversations catholiques évangéliques françaises. Donc, c'est un groupe national très intéressant. Et pour eux, chez beaucoup d'évangéliques, la Bible, c'est la parole de Dieu, de façon presque immédiate. À telle enseigne que dans les confessions de foi d'un certain nombre d'églises évangéliques, ou d'unions d'églises, ou de fédérations, ça dépend, là, il y a toujours une confession de foi et... La Bible et la parole de Dieu apparaissent souvent comme la première des affirmations, avant même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc c'est tout à fait étonnant. Et évidemment, moi, je suis un peu mal à l'aise parce que dire que la Bible est la parole de Dieu fait disparaître, disons, la médiation de la relation. Voilà pourquoi, pour moi, c'est absolument essentiel de dire que c'est dans la liturgie. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est au fond, disons, ce qui est important comme point de repère, c'est Sacrum Sanctum Concilium numéro 7. Pour moi, c'est un point de repère essentiel. Le Christ est présent. Il est présent dans la, il est présent dans la, vie ecclésiale. Il est présent, dit Sacrum Sanctum Concilium numéro 7. Alors, je vais être sûr, j'espère que je n'oublie rien. Il est présent dans l'assemblée chrétienne, dans l'écoute de la parole, dans la célébration des sacrements, dans la personne des ministres. Je crois que c'est ça, c'est dans cet ordre-là. À vérifier, si quelqu'un a Sacrum Sanctum Concilium 7 sous les yeux, je veux bien qu'il vérifie que je ne me trompe pas dans l'ordre. C'est très intéressant parce que donc il y a de multiples modalités de présence du Christ ressuscité à son Église. Et qu'elle n'est pas simplement présente dans les espèces eucharistiques, il n'est pas simplement présent dans les espèces eucharistiques, pas simplement non plus présent que dans la personne des ministres, mais aussi dans la parole et dans l'assemblée. Ça va ? Moyennement.
Moi, je voulais intervenir, pas pour poser une question, mais pour nous interpeller et se donner un point d'attention. Parce que, personnellement, je suis convaincue de l'importance de la relecture. J'ai eu la chance d'en faire plusieurs fois, d'en vivre plusieurs fois. Mais je crois qu'on doit apprendre à se donner le temps. Parce que, voilà. Trop tendance à passer d'une activité à l'autre, c'est pas se donner le temps. Et quand on prépare quoi que ce soit dans l'église, on a à définir avant l'activité un moment pour relire. Autrement, on le fait pas. Je trouve que c'est dommage.
Merci beaucoup, c'est vraiment cette remarque très très juste. Parce que vous voyez, je vois très bien dans les synodes diocésains, par exemple, et même dans les synodes. Convoqué par les papes successifs, je pense à celui de 2008 sur la parole de Dieu, parce qu'il est vraiment celui qui nous intéresse aujourd'hui, on a eu tendance, y compris à Vatican II, à ne pas prendre en compte la question de la réception. Or, la réception fait partie du processus. C'est-à-dire, on a cru, dans des siècles, moi je l'ai vu dans plusieurs synodes diocésains, qu'une fois qu'on avait fait les actes synodaux, qui étaient signés de l'évêque, avec... qu'il est promulgue de son autorité, signé par amendement, il y a même le sceau, enfin si vous voulez, c'est tout ce qu'il y a de plus solennel, que ça allait, comme par magie, en quelque sorte, être reçu dans le diocèse. Eh bien, évidemment que non. En réalité, le processus synodal doit impliquer la question de la réception. Et il y en a une des questions qui disait, mais est-ce qu'on a reçu ce texte? C'est une des questions d'il y a 60 ans, en parlant de Dei Verbum. Ben, on peut dire que non. Enfin, tout ça, pas de manière plénière. Nous sommes dans une phase de réception de Vatican II. Mais nouvelle, à mon avis, parce qu'on est dans une étape synodale. Mais à quoi je rajoute immédiatement qu'attention, nous sommes aussi dans une phase de réception du Concile de Nicée, 325. Parce que quand nous disons Jésus-Christ est vrai homme et vrai Dieu, est-ce que nous chrétiens, avons vraiment intégré pleinement l'articulation, disons, du homo iusios, du consubstantialem, du de même nature, de consubstantiel, est-ce que nous savons vraiment ce que ça veut dire? J'en suis pas certain. Je ne suis pas certain, plusieurs, sans doute, si on les interroge à la fin, seront dans une position plutôt docette, ou au contraire, l'opposé étant arianisme, arien, oui, c'est-à-dire le... Voilà, docette, il l'a fait semblant, arien, c'est un homme qui est supérieur, quoi, en quelque sorte. Et tenir cet équilibre est difficile. Donc on est toujours dans la réception conciliaire. Donc vous avez raison sur ce plan-là. Prévoir le temps de relecture fait partie intégrante de toute activité ecclésiale. Ça, je pense que c'est très, très important.
En amont de la réception, moi, il me semble qu'il y a aussi une dimension de cohérence, voire congruence. Quand on mentionne Luc 4, oui. Quand Jésus dit « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit pour vous », ce qu'il vient de proclamer, il va le vivre.
Oui, tout à fait. Oui.
Ce qu'il dit, il le fait. Et il me semble qu'on est parfois très très loin de ça. Il y a une dimension des actes dont on a un peu parlé, mais très très peu. Moi, j'ai en tête cette phrase, on parlait de synode des évêques, 1971, la justice dans le monde. Accrochez-vous, la phrase est complexe. Le combat pour la justice et la participation à la transformation du monde nous apparaît pleinement comme constitutif de la prédication de l'Évangile, qui est la mission de l'Église pour la rédemption de l'humanité et sa libération de toute situation oppressive. J'ai l'impression qu'on est parfois très déconnecté des enjeux réels de la vie de nos sœurs et de nos frères.
Oui, c'est très intéressant comme remarque, parce que en fait ça pose une vraie question, ça, qui est, disons, pour le dire brutalement et méchamment, Église et politique. Parce que en effet, il y a vraiment le risque, alors surtout dans un pays comme le mien, la France, où il y a une sorte d'exigence de laïcité qui est poussée jusqu'à l'extrême par moment, mais disons, traduire la nouveauté évangélique en des termes effectifs qui dépassent simplement ce que moi personnellement je peux faire, qui en fait va pas très loin, franchement. Et donc il y a forcément une mise en œuvre sociale, donc politique, est en fait extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Vous voyez, quand le pape François dit, il le dit dans Evangelium Gaudium, donc vraiment 24 novembre de 2013, donc ça va faire 10 ans très bientôt. Eh bien, il dit, moi je suis le pasteur d'une église sans frontières. Il faut bien voir ce que ça veut dire quand même. Hein. Ça veut dire que bien sûr, dans l'église, il n'y a pas de question de nationalité. Oui, d'accord. N'empêche que quand on veut demander le baptême pour son enfant, ou même pour soi-même, on demande des papiers. Et que baptiser des enfants d'immigrés sans papiers dans un pays, c'est pas si facile. Et que dès qu'on est sur ce terrain, alors je ne sais pas en Suisse, parce que je ne connais pas, mais en tout cas en France, j'ai bien vu, dès qu'on s'avance sur ce terrain, comme le fait le pape François, comme il l'a fait à Marseille, vous voyez très bien ce que ça suscite comme réaction dans le peuple chrétien. Je ne parle pas de l'extérieur. Donc oui, vous avez raison, disons, c'est la mise en œuvre de la radicalité évangélique, elle est difficile sur le plan individuel pour nous, et elle demande d'ailleurs une forme de vérité dans sa propre vie, qui est parfois coûteuse, elle n'est pas facile non plus sur le plan, disons, politique et social. Là, je ne prends qu'un exemple. Mais j'aurais pu parler du nucléaire, de l'avortement, enfin voilà. Donc jusqu'où ? Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci.